Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Voilà, ça commence. On est en ligne avec Paul. Salut Paul, comment vas-tu?
Salut Bart, ça va bien. Tu vois, je suis dans ma chambre tranquille, peinard, posé.
Un petit peu de repos, je crois que t'étais en semaine avec les enfants et que là t'attaques bientôt un nouveau projet, donc c'est le sas de décompression, c'est ça?
Ouais, c'est le sas de décompression, préparation, passer du mode papa au mode projet, voilà, perso, c'est toujours des moments délicats, voilà,
ouais.
Des moments, okay, où faut remettre un peu son esprit en route.
Ok. Bah écoute, j'aurais des petites questions d'ailleurs pour savoir un peu comment tu jongles entre les deux casquettes, parce que c'est un problème que je découvre depuis quelques années, et toi que tu connais sûrement un peu mieux que moi, donc j'aurais des questions peut-être un peu durant notre échange sur effectivement comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre, parce que c'est deux rôles différents et puis t'as une activité qui est très particulière, parce que dans laquelle tu t'engages énormément. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu te définis toi? Je vois guide, je vois alpiniste, je vois ouvreur de voie. Comment est-ce que toi tu te définis aujourd'hui, sportivement parlant, professionnellement parlant?
J'arrive pas à me définir vraiment. J'essaye. Moi, j'aime bien le terme, même s'il est un peu désuet, le terme montagnard. Voilà, je me sens montagnard. J'aime la montagne et puis j'essaye de mélanger un peu toutes les disciplines et puis de faire en sorte de valoriser ce que moi j'ai aimé en montagne, c'est-à-dire la montagne des vaches, des alpages, jusqu'au glacier, jusqu'au sommet. Et voilà, c'est toutes les palettes de la montagne, avec le ski, le trail, l'escalade, l'alpinisme. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Montagnard, ça me va bien, moi.
Ok, et ben ça marche. Je mettrai ça, Paul Montagnard. Je me sens montagnard, c'est marrant. Mais écoute, j'aime bien ta définition, notamment dans le fait que tu t'inspires un peu de toutes les disciplines, parce que c'est vrai que moi j'ai regardé beaucoup de ton contenu, tu vois, ces derniers jours, et c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est la variété et la richesse de ce que tu produis, parce qu'on voit plein de choses. Et je trouve ce qui est aussi très intéressant, c'est le fait que tu sois transparent dans les images que tu publies de tes expéditions ou de tes projets, c'est que on voit l'engagement physique, on voit la difficulté, et tu vois même les descentes sur des glaces complètement gelées, où on te voit, où c'est vraiment, je vais pas te dire galérer, mais tu vois, on sent que c'est hyper dangereux, quoi, que tu peux pas avancer ou que t'es bloqué, tu reviens en arrière, et c'est pas forcément la montagne, on va dire, sexy, la belle poudreuse, où on a presque l'impression que c'est trop facile, que c'est trop beau, avec du matériel dernier cri, tout coloré et tout. Moi, il y a un côté authentique, je trouve, dans ce que tu produis, et du coup, le terme, quand tu me parles de montagne comme ça, j'y crois vraiment.
Ouais, ça rejoint, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai perdu pas mal de copains, pas mal, j'ai perdu mon frangin, etc., en montagne. Et une des premières leçons que j'ai apprises assez rapidement, c'est la sincérité avec laquelle tu vas en montagne. On n'est pas sur un stade, on n'est pas en train de faire du jogging, on n'est pas, on est dans un milieu qui est quand même où il y a des dangers. Mais après, c'est à toi de les prendre ou de pas les prendre, les dangers. Moi, je fais en sorte d'éviter de les prendre. Et pour éviter de les prendre, je me suis toujours dit que la meilleure des manières, c'était d'être sincère. Et à partir du moment où on commence à tricher, eh ben, on commence à prendre des risques qu'on maîtrise plus, quoi. Alors que la sincérité, bah, ça te permet toujours de te dire, là, j'ai plus rien à faire là, donc je redescends, quoi. J'arrête les frais et puis je fais autre chose, quoi. Voilà. Et effectivement, moi, c'est ce que j'essaye de partager, parce que les belles images, c'est super, ça fait rêver. Et moi, c'est ce qui m'a aussi motivé quand j'étais gamin à aller en montagne, c'est les belles images, les images léchées, etc. Mais concrètement, sur le terrain, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est plus rustique, c'est plus sincère, quoi. C'est, faut que j'aille à droite ou faut que j'aille à gauche, et puis toujours un peu toujours avec cette idée de se dire la montagne que les gens pratiquent n'est pas la montagne qu'on voit à l'image. La montagne que les gens pratiquent, c'est ils ouvrent une carte ou un topo et ils vont faire leur randonnée, mais ils la préparent avec leur sac à dos. Ils ont personne qui sont là qui les attendent au ravitaillement. Ils ont personne dans l'hélico pour au cas où il y a un souci, etc. Alors que les belles images qu'on voit, souvent, il y a toute une équipe derrière qui permet de faire de la belle image. Donc, moi, mon objectif, c'est pas forcément, je me dis pas, c'est pas bien, la belle image n'est pas bien. Non, ça fait partie de ce qui procure du rêve pour aller en montagne. Et moi, ce que j'essaie de proposer, c'est cette sincérité, c'est cette authenticité qu'on est très nombreux à vivre, hein. Chacun.
Ouais, bien sûr. C'est vrai, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Je l'avais jamais vu de cette façon. Tu vois, le fait d'être sincère, notamment avec soi-même, et de pas se mentir ou tricher, c'est très lié justement à la prise de risque et à l'engagement que tu mets en montagne. Je l'avais pas du tout vu comme ça. J'aime beaucoup comment tu le formules. C'est quelque chose que t'as travaillé, parce que tu vois là, tel que tu me le dis, je me dis. J'ai l'impression que tu as médité sur cette question-là moi j'ai tendance, tu vois, par exemple, à beaucoup me mentir à moi-même, tu vois, volontairement. Ouais. Parce que si je m'écoute, des fois je me crois pas capable, ouais. Ou je me sens pas à la hauteur, ou je me sens peut-être un petit peu un imposteur. Et des fois du coup, je m'écoute pas et je me mens à moi-même en me disant non mais attends, mais tu vas y arriver, t'es crédible, tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué, et justement pour me forcer à prendre des risques. Toi, t'es dans un cas de figure où tu peux pas prendre de risque, quoi.
Donc, ouais. Moi, il y a, on va dire qu'il y a deux choses en fait qui sont un peu fondamentales dans ma manière d'aborder le risque, qui m'ont construit. C'est la première des choses, c'est forcément le décès de mon frangin en montagne. Moi, j'étais pas montagnard encore à cette époque-là, même si je pratiquais un petit peu, mais je pratiquais en amateur. Et du coup, il y a eu ce décès. Et puis après, moi, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai envie, deux ou trois ans après, pas tout de suite, ça m'a pris du temps, et puis c'est pas moi qui l'ai vraiment décidé, c'est plutôt sur une idée de mon ex-femme, je me suis dit que j'allais essayer d'être guide de haute montagne. Et quand je me suis dit, je vais essayer d'être guide de haute montagne, j'avais le décès de mon frère en tête, et je me disais, bah ouais, mais mes parents, comment ils vont l'accepter, quoi? Parce qu'ils ont déjà perdu un fils en montagne, est-ce qu'ils sont prêts à accepter le fait que leur autre fils, enfin, j'ai un autre grand frère qui est batteur professionnel à New York, et j'ai une grande sœur, mais est-ce qu'ils vont accepter qu'un de leurs fils aille en montagne et se confronte au même risque? Et à partir du moment où moi je leur ai annoncé ça, je me suis tout de suite dit, mais j'ai interdiction de mourir en montagne. Interdiction. Moi, je m'interdis. Alors, peut-être que ça m'arrivera, hein, mais dans tous les projets que je peux mener, dans tout quand je vais en montagne, même quand j'amène des clients, etc. Moi, je peux me dire quand j'ai des clients parfois ça m'arrive moins maintenant, mais quand j'étais jeune, qui me disaient, j'ai vraiment envie d'aller à ce sommet-là. Moi, je leur disais, mais moi, non, on n'y va pas, il y a trop de risques, on redescend. Et j'ai perdu des clients comme ça. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, il y a rien qui m'importe plus que de rentrer à la maison. C'est marrant parce que du coup, je monte des projets qui sont un peu, voilà, qui peuvent paraître extrêmes, etc. Mais je les monte de telle façon que à tout moment, je me dis, mais c'est pas grave si j'arrive pas à la fin de mon projet, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est que j'essaye de me faire plaisir, j'essaye de partager des choses, des expériences, des aventures, des histoires, surtout en montagne. Mais le renoncement est une histoire aussi, le demi-tour est une histoire aussi. Donc moi, je suis complètement libéré de toute pression, voilà. Et c'est aussi ce qui explique que ça explique aussi les images brutes, etc. Parce que c'est pas les sponsors qui me demandent de faire des images ou qui me demandent de faire un projet. C'est moi qui ai envie de faire des projets, et puis je m'aide avec des marques qui m'aident pas financièrement, mais uniquement matériellement, ils me donnent juste du matériel pour que j'arrive à faire mes projets. Donc j'essaye de me libérer de toute pression pour aller en montagne tranquille, quoi, en faisant que plaisir, et puis voilà, avec quelques idées derrière la tête, mais voilà, c'est tout. Et la deuxième manière, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, où toi tu te mets la pression, c'est toujours partir. Moi, je pars toujours, et puis dans ma vie quotidienne, c'est un peu ça aussi, c'est en me disant, on verra bien, je vais essayer. Et puis, le demi-tour est toujours possible. On peut toujours s'arrêter de faire quelque chose, on peut toujours décider de faire autrement. C'est à partir du moment où on rentre dans des impasses, et c'est les impasses qu'il faut repérer, quoi. Mais voilà, faut pas rentrer dans les impasses.
Ouais. Mais écoute, merci pour cette transparence, tu vois, et de cette réflexion justement par rapport à la vie et la mort. C'est vrai que t'as une histoire particulière en plus avec, comme tu l'as dit, avec ton frère. Et tu vois, moi sur ce podcast, j'ai eu d'autres aventuriers, et c'est vrai que quand je leur parle de la prise de risque, du danger, de leur rapport à la mort, tu vois, certains vont très vite, tu vois, avoir tendance à te dire non, mais en fait, t'y penses pas, Tu vois, il faut t'écoutes ta peur, parce que la peur, c'est un sentiment naturel qui te donne beaucoup beaucoup d'informations. Si t'as peur, c'est que t'es pas habitué à faire cette chose-là, et que du coup tu dois augmenter ta concentration, ça te met en état de stress, ça te met plus alerte, mais tu écoutes pas forcément le, enfin, mais t'essayes d'oublier un peu le enfin, certains, j'avais l'impression, en tout cas en les écoutant, qu'ils essayaient vraiment d'oublier, tu vois, la pire conséquence possible, tu vois, et qui effectivement la perte de la vie, tu vois. Donc, et toi, le fait que t'aies ce postulat d'entrée comme ça, c'est touchant déjà, humainement parlant, tu vois, de se dire, d'avoir cette force et cette rigueur, de se dire, c'est mon premier objectif et je m'y tiens. Et c'est vachement inspirant. Enfin, c'est vachement inspirant. Je trouve que ça détonne un peu peut-être avec ce que disent certains, qui vont peut-être aller chercher un peu plus de sensations et qui peuvent se dire bon bah si ça arrive, ça arrive. Et puis voilà quoi. Mais ouais. En tout cas, c'est passionnant.
Ouais, moi je rebondis hein, sur ce que tu dis.
Ouais, vas-y, permets-toi.
Parce que moi, il y a quelque chose. Les gens, ils sont toujours surpris quand je dis ça, mais je le pense. Et puis j'ai beau le retourner dans ma tête très très fréquemment, j'ai tendance à dire mais moi j'ai jamais peur. Ouais. Et pourquoi alors je me pose la question, je dis mais pourquoi moi j'ai pas ce sentiment là alors si j'ai, tu vois, les peurs que j'ai, c'est quand je risque rien, par exemple en escalade quand je suis avec des pitons, donc des spits, et que je suis 2 mètres au-dessus avec une corde qui tient 2 tonnes, le spit il tient 2 tonnes, quelqu'un qui assure derrière. Eh ben, je suis 2 mètres au-dessus du spit, et ben, là, j'ai peur. Là, j'ai peur. Alors que je risque rien. Et quand je suis dans mes pentes, ou si je tombe, je meurs, j'ai pas du tout peur. J'ai pas du tout peur parce que je me suis préparé. Enfin, j'ai fait toute une démarche qui fait que je suis bien là. Et puis que je me dis, mais je peux toujours faire autrement. Donc, en fait, j'ai plutôt peur de ce que je maîtrise peu. Et c'est vrai qu'en escalade, là, ça fait quelques années que je grimpe moins. Quand j'étais jeune, je grimpais beaucoup. J'avais beaucoup moins peur de tomber dans mon baudrier. Là, quand je pratique moins, bah forcément, j'ai un peu peur. Donc, si je me remets à pratiquer, bah j'aurai moins peur et je pourrais y aller. Mais voilà, on a souvent, et puis c'est un peu bête de dire ça. On a peur de ce qu'on connaît pas. On a peur de ce qu'on connaît pas. Et en montagne, il y a plein de choses qu'on connaît pas. Il y a plein de choses qu'on connaît pas. Et alors, soit on essaye d'essayer d'être curieux et puis de rentrer dans cette curiosité pour essayer de mieux les comprendre, mieux voir ce qui peut fonctionner, mieux anticiper les choses. Par exemple, moi, ça m'intéresse pas d'aller faire de la montagne quand il fait gros mauvais temps. C'est vraiment, alors je sais que j'ai des collègues qui aiment ça, qui aiment se mettre dans ces situations un peu dangereuses, un peu etc. Et je peux le comprendre, mais moi je l'aime pas. Moi quand je vais faire un projet, moi il faut qu'il fasse grand beau ou très beau quoi. Même si parfois je me fais surprendre forcément, mais quand je me fais surprendre, généralement je fais demi-tour quoi. Mais j'aime, voilà, moi je fais de la montagne quand il fait grand beau, quand tout va bien, et puis quand le seul élément à gérer, c'est mes décisions et mon physique, et puis tous les autres paramètres sont à peu près maîtrisés quoi. Voilà.
Ouais. Bah justement, j'aimerais bien qu'on parle de un petit peu de préparation, notamment tu as mentionné tout à l'heure tes partenaires au niveau du matériel, et bon, on a été mis en relation par Noémie de Suunto d'ailleurs, qu'on embrasse et qu'on remercie, parce que c'est Suunto, la marque de Monde Connecté, je crois, qui t'accompagne et qui fait du super bon boulot d'ailleurs. Moi, j'aimerais savoir un petit peu, ouais, comment tu te prépares, quel matériel tu as besoin du coup pour venir, pour préparer une expédition comme ça, et comment est-ce que du coup tu vas peut-être anticiper les dangers, anticiper les prises de risques. Est-ce que tu as aussi, au-delà du matériel, tu vois, j'imagine, peut-être un petit travail de visualisation, ou même, tu vois, que ça soit de visualisation les yeux fermés, un peu prépa mental, où tu te vois descendre, mais ça peut être aussi tout simplement en regardant une carte ou regardant une photo. Je crois que tu aimes bien regarder des photos avant une ascension ou une descente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différents, on va dire, les différents piliers de la préparation d'un projet? Je pense donc, ouais, du matériel, un peu à la logistique, peut-être le physique aussi. Enfin, dis-nous un peu tout sur comment est-ce que tu te prépares.
Ouais, je vais essayer d'être assez clair.
Mais c'est sur, la, on la a première, le temps, t'inquiète.
Ouais, la première des choses pour préparer préparer un projet, il faut déjà avoir le projet. Et rien que ça, déjà, rien que ça, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Ça va constituer une grande part du travail, parce que pour moi, la motivation pour un projet, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'il va falloir, une fois que j'ai une idée, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, ou est-ce que je préférerais pas faire autre chose? Puis déjà, je mesure l'intérêt que j'ai moi personnellement à faire ce projet. Je vais pas faire des projets qui me correspondent pas ou des projets. Parfois, ça m'arrive d'avoir des idées où je pars, où je me dis ouais non mais au bout de quelques jours, je me dis c'est stupide là tu cherches à faire un record et c'est pas toi, c'est pas ton truc, t'étais pas en compétition, donc allez j'arrête. Et je pars sur autre chose. Alors peut-être que je remanie le projet pour que ça soit plus un record, mais que ça soit plutôt une histoire. Voilà. Pour moi, c'est toujours déjà beaucoup sur le projet en lui-même. L'idée que j'ai au départ, il faut que ça ait du sens. Voilà. S'il n'y a pas de sens à ce que je fais, eh ben généralement, je suis pas motivé, j'arrive pas au bout. Je vais pas au bout du projet. Je l'accomplis pas. Donc déjà, il faut qu'il y ait un sens au projet. Ensuite, au niveau de la préparation, à partir du moment où on a le projet, faut regarder un peu moi je regarde un peu la durée. Tu vois, là, je suis parti sur un projet de plus de 5 jours, enfin 5 jours au mieux et peut-être 6. Ça va pas être la même préparation que quand je fais un projet, par exemple les 4 faces que j'ai essayé de faire à la verte, où c'est une journée. C'est en 24 heures. La préparation n'est pas du tout la même, ni physiquement, ni au niveau alimentaire, etc. Pour un truc d'une journée ou 24 heures ou 2 jours, donc assez court, là il va falloir être prêt le jour J. Donc il va falloir effectivement avoir un entraînement, etc. Et puis aussi une alimentation juste avant qui te permette d'être prêt pendant 24 heures pour faire un truc assez rapide. Sur un projet à plus long terme, il y a moins besoin de s'embêter avec l'alimentation, parce que elle va peut-être être importante sur la première journée, mais le 4e jour, si on est crevé, on est crevé. Et tu as beau manier l'alimentation dans tous les sens, sur un projet sur 5 jours comme ça, l'incidence, elle va être au départ, mais au bout de 3-4 jours, tu auras beau faire ce que tu veux, tu arriveras pas à gérer 5 jours d'effort. Ouais. Donc il faut plutôt se laisser aller et puis se dire bon, on va gérer ça au fur et à mesure. Donc voilà, il y a une notion intention du projet, qu'est-ce que je veux en faire. Ensuite, il y a quelle durée. Et après, je mets souvent en place un protocole un schématique d'entraînement. J'ai personne qui m'aide, moi. J'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de kiné, j'ai pas d'ostéo, j'ai pas de préparateur physique, ni mental, ni quoi que ce soit. Donc moi, je fais ça un peu en regardant un peu sur Internet ce qui se fait un peu ailleurs. Souvent, mes projets, ils sont très décalés. Donc, il n'y a pas de référence. Donc, je pioche un peu sur différents sports, le trail, ça peut être aussi parfois l'escalade, ça peut être le ski avec des copains comme Vivian, je regarde un peu ce qu'il fait, Vivian Bruchet qui est skieur de Pentraide, je regarde un peu ce qu'il fait comme préparation lui aussi avant, et je pioche des idées à droite à gauche comme ça pour me monter un projet. Donc généralement c'est un gros bloc physique assez tôt pour avoir un foncier qui va durer longtemps. Ensuite, faut gérer faut aussi gérer le boulot, hein. Moi je suis guide de haute montagne, c'est mon boulot, je suis pas athlète, je suis guide de haute montagne. Athlète c'est une occupation parce que je gagne pas ma vie avec ça. Donc je gère le boulot, et puis pendant le boulot, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'entraîne en plus du travail, ou est-ce que je me repose plutôt? Alors voilà, ça va dépendre des projets. Sur le projet que j'ai en tête pour après-demain, là, sur 5 jours, la farandole des écrins, comme c'est un projet long, je me suis dit non, je vais pas faire plus d'entraînement, je vais juste essayer d'être un peu régulier, et puis voilà, mais je vais pas me faire des gros entraînements comme je peux faire pour les 4 faces à l'aiguille verte ou d'autres projets que je peux avoir qui sont plus courts, où là je me fais vraiment des gros blocs d'entraînement parce que je peux me reposer avant, enfin je peux gérer ça différemment. Donc voilà. Okay. Donc préparation physique. Et ça c'est la prépa physique. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Après à plus courte échéance, quand le projet arrive, il va falloir se poser la question sur le matos. sur le, quel matériel je vais emporter, de quoi j'ai besoin, etc., etc., en fonction du type de projet. Est-ce que je mets des amis dans la boucle qui vont m'aider ou pas? Ça dépend aussi de la nature du projet. Là, pour la farandole des écrins, moi, mon idée, c'est vraiment d'être en autonomie. Donc, il y a personne qui va me faire des ravitaillements. Je pense que je voilà. Mais il y a d'autres projets où j'ai été aidé. Pour les quatre phases de la verte, j'ai été aidé parce que c'était un projet qui n'était pas jouable sans l'aide de personnes à droite, à gauche pour du matos ou pour de la bouffe, etc. Donc, il y a un aspect logistique à voir. Okay. Et puis voilà. Après, tu pars sur le projet, quoi. Et pour finir là, au niveau de la préparation mentale, moi, à partir du moment où mon projet au départ, il est bien, voilà, il correspond à ce que je veux, j'ai pas de préparation mentale spécifique parce que c'est quelque chose qui va me porter. Et si comme il y a du sens dans ce que je vais faire, eh ben je vais être bien dedans, quoi. Je vais être à l'aise avec ça.
Tu l'as dit, moi, tu vois, je m'intéresse beaucoup à la préparation mentale, tu vois, j'ai même le petit projet de devenir préparateur mental moi-même, et donc je lis beaucoup de livres sur le sujet, et c'est marrant parce que tu dis que tu n'en fais pas vraiment, mais en fait, quand tu as expliqué toutes les étapes de ton projet, il y avait plein de fondamentaux de la préparation mentale, tu vois, trouver une réelle motivation et trouver du sens à son projet et trouver du sens à associer en tout cas un sens profond, une motivation profonde à un objectif, c'est le pilier numéro un de la préparation mentale, tu vois. Quand tu le dis, en fait, finalement, enfin, ça fait vachement sens. Et puis ensuite, t'as parlé de protocole et de préparation, et pareil, le fait, tu vois, de vraiment avoir décortiqué toutes les étapes d'un projet de préparation, parce que tu l'as quand même plutôt bien fait là, sur cet exercice que je t'impose, bah ça monte là aussi, tu vois qu'il y a un travail psychologique sur OK, bah comment est-ce que j'arrive à l'objectif, et enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais tu vois, c'est marrant parce que je rencontre, tu vois, de temps en temps des athlètes, des aventuriers, qui me disent non, moi je fais pas trop de préparation mentale, et en fait, tu sais, quand tu creuses, il y a de manière indirecte, ils en font, tu vois, parce oui. que ils ont mais sans s'en rendre compte, quoi. Donc c'est assez fascinant.
Ouais. Oui, mais je rebondis moi sur ce que j'ai dit tout au début. Je pense qu'à partir du moment où t'as de la sincérité et de l'authenticité dans ton projet, en fait, oui. C'est pour ça qu'on parle pas. Enfin, moi, je parle pas de préparation mentale, même si je suis bien conscient qu'elle y est. Regardez, c'est effectivement, si j'ai pas les protocoles, si je le prépare pas bien mon projet, bah, je vais pas y arriver. Donc, c'est de la préparation mentale aussi. Je veux dire, faire un sac comme il faut là pour le projet de dans deux jours. Bah forcément, moi ça, ah ouais, ok, je suis déjà dedans, je suis déjà en train d'anticiper des choses, donc je me prépare mentalement, je suis déjà en train de visionner dans ma tête, dans mon esprit, les passages, j'essaye d'anticiper les difficultés, etc. Donc tu fais de la préparation mentale dans ton protocole, bien sûr. Mais je pense que on n'en parle pas, c'est pas évident, parce que à la base, ah ben, on a envie de le faire, quoi. Donc, on se force pas. Je pense que, voilà, moi, l'idée de la préparation mentale, je pense qu'on peut l'anticiper. Comme tu dis, tu vois, c'est, voilà, t'as un projet. OK, ben, je t'écoute. Et c'est quoi ton projet et comment tu le sens? Là, tu peux anticiper un peu. Mais à partir du moment où il est authentique et sincère, je pense qu'après, ça devrait se faire naturellement, la préparation mentale. Mais bon.
Bien sûr. Et par hasard, tu vois, sur un peu les routines, est-ce que toi, t'as des routines, tu vois, dans tes préparations, ou même, je sais pas, juste avant de partir sur un projet, est-ce qu'il y a des, alors tu vois, ça peut être des routines un peu, parfois, comment superstitieuse, mais est-ce que t'as aussi des routines, peut-être, je sais pas, un peu même techniques, tu vois, je pense à aller farter ses skis, vérifier que, enfin, recharger la montre, tu vois, est-ce que t'as des routines un peu que t'as conscientisé un peu comme ça?
Je pense que j'en ai, mais je les ai pas conscientisés. Je les ai pas conscientisés. Mais mes projets, ils sont tellement différents les uns des autres, la plupart du temps, que j'ai du mal à rentrer dans des routines. Après, effectivement, la recharge montre téléphone, parce que moi j'ai la carte sur mon téléphone, j'ai la cartographie sur le téléphone. Donc ça, c'est des choses que j'ai tendance à mettre en avant et que je sais qu'il faut pas que j'oublie, parce que si j'oublie ça, je pars même pas quoi. Alors après, comment j'utilise, faut faire attention aussi hein, que donc le téléphone, c'est important pour les secours et pour la carte que j'ai dessus, même si j'ai à peu près tout dans la tête généralement quand j'y vais avant. Et la montre, moi, pour moi, c'est un outil, c'est pas un moyen. C'est un outil qui me permet d'avoir des références, savoir où j'en suis. Par exemple, même en pentraide, même quand je fais des trucs en pentraide où on se dit, il n'y a pas besoin de connaître l'horaire. Bah si, parce que l'état de mon avancée vers le haut me permet de savoir si je suis fatigué ou si je suis pas fatigué, parce que parfois on le ressent pas, mais on va à 2 à l'heure. Et si je monte à 2 à l'heure, ça veut dire que la descente, ça va être long, et ça veut dire que le soleil, peut-être qu'il va chauffer la neige et que je pourrais plus redescendre. Donc la montre, c'est vraiment, moi je l'utilise vraiment comme un outil. Là, sur un truc comme quand je pars 5 jours là, ça va me permettre de me caler sur un rythme pas trop rapide, pas trop lent, parce que si je suis trop rapide, je vais me flinguer dès le départ. Si je suis trop lent, je vais arriver trop tard dans les refuges le soir, donc je pourrais pas repartir le lendemain. Donc il va falloir que je m'adapte. Donc ma montre, moi il faut qu'elle soit hyper fiable et que ça reste un outil. J'ai fait des entre guillemets records, mais à chaque fois que je suis parti que je suis rentré avec des temps un peu de référence, c'était jamais en partant avec l'idée de faire un temps de référence. Je suis toujours parti en me disant, là j'ai envie d'aller vite sur ce truc là. À ma vitesse, mais ma vitesse rapide. Et puis après, quand je suis rentré, je me dis, le temps, il est pas mal, je le partage, parce que ça donne des temps de référence. Mais c'est jamais un but en soi, surtout en montagne, aller vite en montagne, pour moi, ça ne devrait pas être un but en soi. Mais bon, voilà. Et au niveau des routines, les autres routines, c'est étaler le sac par terre. Ça, il y a plein de gens qui le partagent. Avec tout ce qu'on va mettre dans le sac. C'est pas juste de la com, c'est vraiment quelque chose que moi je fais tout le temps en permanence parce que je le mets comme ça par terre et puis je passe ma matinée autour et je bouge des choses, je rajoute des choses, j'enlève des choses, etc. Et j'essaye de m'imaginer un peu, est-ce que je vais avoir besoin de ça? Est-ce que je vais avoir besoin de ça? Quand est-ce que je vais avoir besoin de ça? Et ça me permet de vraiment optimiser mon sac. Et pas avoir trop de choses ou des choses inutiles et pas en avoir pas assez. Vraiment voilà, et ça c'est vraiment c'est clairement un rituel, surtout sur des projets très longs. Après des projets à la journée en pentraide, peut-être que tu le fais une fois au départ et après tu sais ce que tu vas prendre. Et puis tu vas rajouter deux trois bricoles mais rien d'autre. Mais voilà, c'est à peu près les seuls rituels, après c'est de la préparation, c'est plus du rituel quoi, passer des heures et des heures sur les cartes et les topos pour essayer de vraiment optimiser ce qu'on va faire, essayer de s'imaginer là où on va passer, etc. Ça c'est pas un rituel, c'est une préparation quoi.
Je me demande là, tu vois, par exemple sur le projet que tu es en train de faire sur la farandole des écrins que tu vas bientôt commencer, est-ce que combien de temps, j'arrive pas à imaginer combien de temps tu vas passer sur les cartes, tu vois, sur un projet de comme tu l'as dit, de 6 jours. Combien de temps tu as besoin, tu vois, de préparer. Tu vas le faire à pied, donc je me rends pas compte, mais combien de temps ça prend cette étude des cartes et c'est un peu ce calcul des itinéraires. Je serais très curieux de savoir comment. Déjà, où est-ce que tu peux te procurer tout ça?
Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, en parlant de ça, tu me fais penser à un truc, parce que c'est vrai que cette année, j'aurais passé énormément de temps sur les cartes, parce que du coup, j'avais mon projet des 10 ouvertures en pentraide cet hiver. Et puis là, j'enchaîne avec ce projet d'essayer de relier tous les refuges du parc national des Écrins. Et les deux projets ont rien à voir. Il y en a un, c'est du ski et c'est de l'ouverture de voie. Et l'autre, je vais être sur les sentiers la plupart du temps avec quelques passages hors sentier. Mais voilà. Et en fait, je passe quasiment, enfin, c'est quasiment la même préparation cartographique, quoi. Avec des raisons différentes. Quand tu pars essayer d'ouvrir des nouvelles voies, bah, c'est de la recherche. Donc, tu passes du temps sur les cartes pour rechercher, pour voir un peu quelles vont être les pentes intéressantes ou les pentes qui sont un peu sauvages ou où il y a personne qui a été, etc. Dans l'autre cas, bah, tu cherches plutôt à essayer de trouver la meilleure des manières possibles pour rejoindre un refuge par rapport à un autre, aller pas le plus vite, mais voilà, quel est le meilleur chemin, le plus logique et puis le plus, voilà, celui qui va dérouler le mieux et qui correspond au projet. Et pour répondre à ta question, combien de temps j'y passe, c'est très compliqué à calculer parce que c'est des allers-retours, c'est souvent des allers-retours. Tu vois, là, j'ai changé encore mon projet dans la nuit, pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Sur une insomnie, là, je me suis réveillé dans la nuit et j'ai dit, ah, mais attends, mais j'ai pas pensé, mais je pourrais peut-être passer par là et par là, ça me ferait peut-être gagner, tu vois. Et je me suis réveillé dans la nuit, quoi. Enfin, je me suis réveillé pour d'autres raisons, parce que j'avais du mal à dormir. Voilà. Et après, je me suis dit, tiens, je pourrais passer là, là, là. Et c'est quelque chose que t'as en permanence. Puis après, tu vas voir la carte et tu vas voir si tes idées sont bonnes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Après, ça doit se calculer en termes de journée, mais il faudrait que je mette un chrono à chaque fois que je les regarde.
Non, et puis en plus, j'imagine que, tu vois, c'est un domaine dans lequel la perfection n'existe pas, tu vois. On ne regarde jamais assez ses cartes, tu vois. C'est un peu comme...
Ouais. Et puis, on se plante aussi, souvent. parce qu'une carte, c'est quand même, une projection schématisée de la réalité. Donc, parfois, on s'imagine pouvoir passer alors que ça passe pas ou inversement. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, pour moi, c'est la base. Si on veut enchaîner sur mon enfance, moi, c'est un des premiers trucs que mon père a pu m'apprendre, c'était à lire une carte, quoi. Et puis en montagne, ouais. Et du coup, c'est vrai que là, pareil. Là, je suis parti en bivouac en début de semaine là, avec mes enfants. Et puis la semaine dernière, donc là, juste avant de partir, je me suis pris la tête pendant deux trois jours pour trouver l'endroit où j'allais pouvoir planter la tente. Loin d'un sentier pour pas être embêté par les gens, en même temps fallait pas que ça soit dans une zone naturelle, etc. Et donc j'ai dû sortir la carte pour aller planter la tente dans un endroit qui était juste exceptionnel où on s'est régalé avec les enfants. Mais tu vois, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est récurrent, et la carte, c'est vraiment la base de la plupart de mes projets, c'est la carte, voilà.
Ok. Et tu le transmets du coup, toi, à tes enfants, à apprendre à lire une carte et comment l'utiliser?
Je le transmets quand ils sont en demande, quand ils veulent savoir. Je pense que mon grand, je pense qu'ils savent à peu près tous à peu près lire une carte.
C'est déjà exceptionnel pour moi qui suis né à Paris et tout. Autant je suis très très curieux dans l'âme, mais je suis toujours en train de fouiner dans les affaires de mes parents pour regarder, comprendre et tout ce qu'ils font. Mais autant, tu vois, j'ai pas appris à lire une carte de haute montagne comme ça. Donc c'est quand même, tu le dis d'un ton normal, mais c'est assez exceptionnel, je trouve.
Ouais, puis on n'a plus l'habitude. En plus, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de très interactif, une carte. Hein. C'est vraiment une image plate, quoi. Et moi, moi, c'est vrai, quoi. C'est ma chérie, la Véro, qui me dit souvent, mais c'est incroyable. Paul, il regarde une carte et il part en voyage, quoi. Et il sait que là, ça va être beau, là, ça va être comme ça. Là, c'est vrai, ouais. Moi, on me donne une carte, j'arrive à m'imaginer beaucoup de choses déjà. J'arrive à savoir beaucoup de choses avec juste une carte. Ouais. Et je trouve ça chouette. Je voudrais plus l'apprendre aux enfants, du coup.
Ouais. Mais c'est une science, non? C'est une forme d'intelligence, tu vois, c'est de l'intelligence géographique, tu vois, d'être capable de se repérer dans l'espace par rapport à un bout de papier. Tu dois avoir un très bon sens de l'orientation, par exemple.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui. Mes parents m'ont toujours dit que j'avais un super sens de l'orientation, ouais.
Ouais, donc ça va avec. Mais écoute, ouais, je suis assez fasciné. Donc c'est cool. Bon, c'est vrai qu'on s'est bien mis là sur tout, vraiment toute ta la préparation et tout, et c'est vrai que on a un peu on n'a pas trop abordé ton enfance. Est-ce que ton je sais pas, tes parents, ou tu disais que ton père, du coup, t'apprend à lire une carte, c'était déjà des montagnards, eux ils avaient déjà une culture de, je sais pas, de l'aventure ou de l'expédition qui était assez développée?
Ouais, c'est marrant, parce que du coup on va rebondir sur la définition qu'on a pu avoir sur comment un peu qui j'étais. Effectivement, je repense à mes parents, je pense qu'ils sont, ils sont toujours d'ailleurs montagnards dans l'âme. C'était mon père, il a fait par exemple l'Aiguille Verte dans les années 60 avec un guide. Et ils étaient aux Pays-Bas, hein, mes deux parents sont néerlandais, moi je suis néerlandais aussi. Donc ils partaient en vacances dans les Alpes, et ils partaient en vacances en montagne la plupart du temps. Et du coup, voilà, mon père, il a appris avec des guides à faire de la montagne, et avec des copains aussi un petit peu. Mais bon, c'était, voilà, comme la plupart des gens qui font un peu de montagne, quoi. C'est voilà. Et ma mère aussi a fait quelques sommets. Et ils sont tombés, je pense qu'ils sont tombés amoureux des montagnes en règle générale. Donc ce qui était très marrant, quand nous on y allait quand on était petits, donc ils ont, c'était un an avant que je naisse ou un an après, je sais plus, ils ont acheté avec mon oncle et ma tante un petit chalet en Suisse pour y passer les vacances, quoi. Donc nous, la plupart du temps, on allait en vacances là l'hiver et l'été, on y passait pas mal de temps. Et les fondamentaux de mon père, c'était, tiens, voilà tes premières chaussures de montagne, c'est les chaussures en cuir, apprends à les cirer, tu vois. Mais c'était pas du tout comme à l'armée, hein. Mon père était très cool, hein. C'était pas du tout l'armée, mais voilà, si tu veux aller en montagne, tu prends soin de tes chaussures. Puis après, tu fais attention à ton matériel, à ce que tu prends, etc. Donc il m'a appris un peu, je pense, mon père, à avoir ces protocoles que j'ai encore maintenant, tu vois, ces petits protocoles. Alors c'est vrai que j'en rigole, parce que hier on était en train de descendre d'un sommet avec mes enfants, et puis moi je courais devant, et puis mes enfants ils me suivaient en courant, et moi mon père il m'a toujours dit on court pas en montagne, on court jamais en montagne. Et moi ça me fait rire maintenant, parce que moi je fais tout l'inverse. Mais bon, c'était une autre époque, donc ouais, à l'époque il fallait pas courir en montagne.
Ouais, c'est vrai que il y avait c'était moins, on va dire qu'il y a deux écoles, quoi. Et c'est effectivement ma mère dit toujours il faut pas courir en montagne, on prend pas de risques, c'est dangereux, on a un sac sur le dos, mais bon, elle est plus du côté randonnée et escalade plutôt que trail, quoi. Donc je peux comprendre les deux points de vue.
Ouais, moi je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est les secours, hein. C'est que à l'époque où mon père a appris la montagne, s'il se cassait quelque chose, même sur un sentier de randonnée, il n'y avait pas d'hélico, il n'y avait pas de téléphone portable, donc tu pouvais pas, il fallait que tu te démerdes par toi-même, et rien que de se tordre une cheville, voilà, sur un col, ça pouvait être problématique. Alors que maintenant, avec les secours qu'on a, effectivement, on peut appeler, et du coup se tordre une cheville ou se casser une jambe, ce qui n'est pas forcément très grave en montagne, on peut le gérer avec les secours. Alors qu'à l'époque, c'était plus compliqué, hein. Descendre un col avec une jambe cassée, je pense que tu mettais du temps.
Hein. Ouais, c'est vrai. J'y avais pas du tout pensé effectivement à ce facteur-là, et effectivement c'est pas. C'est pas anodin, ça fait complètement sens, Et et toi, je crois, il me semble le premier sport que t'as, sur lequel on va dire t'es vraiment engagé, c'est vraiment du coup c'est vraiment l'escalade à proprement parler.
Ouais, c'était l'escalade, puis l'escalade sportive, quoi. Ouais. C'était vers mes 11 ans. Pardon ?
Tes parents en faisaient ?
Pardon ? Ouais, ils en faisaient un petit peu. Mais c'était eux, ils faisaient de l'escalade pour aller en montagne. Donc, on grimpait des rochers avec la corde autour de la taille. Et puis, j'ai appris mes premiers rappels. Ils étaient, bah, moi, je suis pas si jeune, hein, j'ai 46 ans. Donc, mes premiers rappels, ils étaient sans baudrier avec la corde autour de moi, hein, que je détestais d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça que j'avais appris l'escalade à l'époque, quoi. Donc, c'était l'escalade montagne. Et puis après, bah, je me suis beaucoup cherché. J'étais très sportif quand j'étais petit. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et donc je me suis cherché dans les différents sports qu'on pouvait avoir quand on est gamin en banlieue parisienne, hein, donc c'était du basket, c'était du tennis, c'était de la natation, je sais pas quoi, je fais pas mal de trucs, quoi. Et à chaque fois je butais sur cet aspect un peu compétitif, du coup, même si le basket ça m'a toujours plu parce qu'on est en équipe, donc c'est différent. Mais les sports individuels me rebutaient sur les aspects un peu compétitifs. Et l'escalade dans les années, donc moi j'ai attaqué fin des années 80 en club, c'était le club alpin français qui proposait de l'escalade dans la banlieue, et c'était pour se préparer à aller en montagne après ou aller en falaise naturelle après. Et du coup, il n'y avait pas du tout encore cette notion de compétition parce qu'elle commençait à peine à sortir. Fin des années 80, c'est le début des compétitions d'escalade. Et du coup, moi, je suis tombé dans un club là où je me dis, ah, bah, c'est cool, quoi. Il n'y a pas de compète. Les gens, ils sont là pour après aller dans la nature et puis grimper ensemble. Et ça m'a assez vite plu. Même si petit à petit, ben, j'en suis arrivé à faire de la compétition d'escalade moi-même, à essayer. Parce que forcément, le club a évolué avec l'évolution du sport. Ouais. Et donc voilà, jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait un peu de compétition d'escalade, quoi. Voilà.
Okay.
Et c'est comme ça que voilà. Donc j'avais ce truc-là, mais j'en ai pas fait grand-chose derrière. Pendant pas mal d'années, hein, parce que j'ai arrêté vers mes 17-18 ans l'escalade en compète. Et puis après, j'ai repris quand j'ai voulu être guide, c'est vers mes 23 ans. Donc, j'ai mis ça en jachère pendant 5-6 ans. Ouais.
Ok, d'accord. Ok. Mais c'est hyper passionnant. Et en plus, enfin, ce que je trouve marrant, parce que tu faisais la réflexion en disant que t'étais plutôt jeune et que tu mentionnais ton âge. Mais, tu vois, je trouve ce qui est vraiment très beau avec ta discipline, ou en tout cas, peut-être même avec, on va dire, l'aventure de manière générale, c'est que l'âge devient, et même tous les sports sans réelle compétition. J'ai rencontré un prof durant ma formation de coach, tu vois, qui me disait un sport sans compétition n'est pas un sport. Il me disait un sport c'est des règles, c'est des arbitres et un gagnant à la fin. Pour lui c'est ça un sport, ça qu'il me disait. Moi j'étais pas tout à fait d'accord, mais on va dire, si tu prends la définition du dictionnaire, effectivement, on peut lui donner raison. Mais en tout cas, ce que je trouve très beau dans ces sports, dans ces disciplines, c'est que l'âge devient vraiment un atout, tu vois. Parce que tu gagnes en expérience, tu gagnes en découverte. Toi, tu l'as dit, on en parlait au début, et je fais un peu une passerelle avec le début de l'épisode où tu disais que tu allais piocher différents corps différentes expertises, différentes pratiques pour réaliser tes projets, et tout ça tu peux pas le faire étant plus jeune, quoi. Enfin je sais pas du coup à quel âge, moi la question un peu que sous-jacente de ça, c'est à quel âge justement tu arrives dans cette aisance sur chacune des disciplines à pouvoir te dire, ah bah tiens, je pourrais jongler entre faire des expéditions qui vont couvrir plusieurs expertises. Est-ce que ça se fait naturellement? Ou est-ce que, enfin, je sais pas si ma question est claire, mais
Si, la question est claire. Bah, ça s'est fait en plusieurs fois. Il y a déjà, quand j'ai décidé d'essayer d'être guide de haute montagne, quand je me suis balancé là-dedans, je me suis très vite posé la question, savoir est-ce que j'ai suffisamment de billes pour m'y lancer, parce qu'on s'y lance pas comme ça dans cette formation. Et en fait, en regardant, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai fait de l'escalade quand j'étais gamin, donc dans la banlieue parisienne. Après, j'ai fait quand même 2 ans de formation pour essayer d'être moniteur de ski. Donc ça m'a donné une base en ski qui était assez conséquente aussi, qui me permettait d'avoir des notions de ski. Donc ça c'est les deux comment dire piliers pour se lancer vers le guide quoi. Et après il y avait encore à acquérir toute l'expérience montagne que j'avais un peu avec mon père etc. Même si ça restait de la petite montagne, de la randonnée glaciaire, des trucs comme ça. Mais j'avais déjà quand même j'avais quand même quelques notions et que j'ai dû renforcer et ça m'a permis d'être guide. Donc déjà rien que là tu évolues dans plusieurs disciplines. Et donc ça c'était mon premier truc. Après je suis devenu guide, j'ai bossé pendant plus de 10 ans comme ça en étant guide. Et puis vers mes 40 ans, là c'était mais à chaque fois c'est marrant parce que c'est le fruit du hasard la plupart du temps, tout ça. Enfin il y a beaucoup de choses qui sont le fruit du hasard. Enfin du hasard. Je sais pas si c'est le hasard ou si c'est le moi j'appellerais ça différemment. Un peu quelque chose qui pourrait ressembler à se mettre à disposition, sa mise à disposition de la vie. C'est pas du hasard. C'est-à-dire que à un moment donné, tu lâches les freins et ça te permet d'aller vers des univers que tu n'as pas forcément anticipé. Voilà. Et tu vois, le guide, c'était un peu ça. C'est mon ex-femme qui a eu cette idée sur un coup de tête parce que ça se passait mal entre nous. Elle se dit, mais vas-y, pourquoi tu fais pas guide? En gros, c'était un peu ça. Et j'ai dit, bah ouais. Et puis voilà, donc c'est du hasard, mais moi je l'ai pas refusé quoi. Tu vois, pas dit ah non, c'est pas possible, non. Bah allez, il y a ça qui se présente à moi. Est-ce que je peux le faire? Je mets un peu les choses j'y réfléchis un peu. Je me dis bah ouais, je peux peut-être essayer. Donc j'y vais. Donc c'est une faculté de se mettre à disposition de la vie. Et pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que le hasard, ça me plaît pas, parce que le hasard, c'est un coup de dé, quoi. Et c'est pas un coup de dé, parce que ça vient pas comme ça, faut le créer, ce coup de dé. Faut le générer. Et donc, pour en revenir à nos moutons, par exemple, pour le trail, pour la course à pied, je courais beaucoup quand j'étais jeune, sur les différents sports que j'ai pu pratiquer. Puis j'ai arrêté. Puis j'ai arrêté pendant plus de 20 ans, en gros, de mes 20 ans à mes 40 ans, j'ai quasiment pas couru. Et vers mes 40 ans, il y a ma chérie qui, elle, courait, Véro, là, ma femme, qui un jour, elle part s'acheter des nouvelles baskets et elle me dit, viens, je vais acheter des nouvelles baskets, viens avec moi. Et puis, je traîne dans les rayons et puis elle me dit, moi, j'ai envie d'aller courir après, là. Tu viendrais pas avec moi? Je dis, oui, mais j'ai pas de chaussures. Et puis là, je regarde un peu les chaussures. Puis, tiens, ouais, il y a une paire de chaussures. Je vais la tester. Je vais la prendre. Je la prends. Et donc, elle m'équipe. Et puis, j'ai été courir avec elle. Et puis là, je me suis dit, mais c'est chouette, quoi. Ça fait du bien de courir. Ça faisait 20 ans que j'avais pas vraiment couru. Je dis, c'est cool. Et puis, c'est comme ça que j'ai repris la course à pied à 40 ans, quoi. Vers mes 40 ans. Tu vois, donc c'est, ouais. C'est voilà, se mettre à disposition de ce qui arrive dans la vie. Et je sais pas pourquoi on parlait de ça.
non, mais si justement de comment tu passes d'une discipline à une autre et comment est-ce que tu comment est-ce que t'apprends et comment est-ce que t'ajoutes des cordes à ton arc.
Voilà, ouais. Et du coup, c'est en même temps, je pense que. Effectivement, quand on est plus jeune, on va vouloir performer. En tout cas, quand j'étais jeune, je voulais quand même performer, pas forcément en compétition par rapport aux autres, mais je voulais, tu vois, tu étais toujours dans cette notion-là, donc tu vas te spécialiser plutôt dans un truc. Et c'est vrai que petit à petit, avec l'âge, ça te permet peut-être d'être un peu moins performant. Moi, je vais jamais prétendre gagner l'UTMB ou faire un record sur un kilomètre vertical ou des choses comme ça. À 46 ans, ça serait complètement débile. mais par contre, là où je peux faire peut-être quelque chose et puis surtout partager, se dire, regardez la montagne, elle est plurielle, quoi. Vous pouvez faire plein de choses avec. Elle est malléable et c'est ça qui est passionnant. En plus, on peut faire ça pas très loin. On n'est pas obligé d'aller faire des expéditions à droite, à gauche, etc. Et c'est ça qui est chouette avec la montagne. Et pour finir la boucle sur ce que tu disais sur la notion de sport, moi, ça, c'est toujours un truc qui m'a, ouais, effectivement dérangé avec la montagne. Moi, j'ai toujours dit non. Moi, pour moi, la montagne, c'est pas un sport. C'est pas non plus une philosophie parce que c'est pas purement mental, mais c'est moi ça se rapproche plus du domaine artistique que du domaine sportif, quoi. Et quand tu regardes un danseur, on va pas dire de lui que c'est un sportif, et pourtant il fait énormément de sport pour pouvoir faire son mouvement. Et ben pour moi en montagne, c'est un peu la même chose avec en plus l'environnement naturel à gérer autour de soi. Donc il faut faire du sport pour aller en montagne et pour s'y sentir bien, ça c'est sûr. Mais le sport c'est quelque chose que tu fais avant pour y aller. Et c'est pas tu vas pas en montagne pour faire du sport, tu vas en montagne pour vivre des histoires et des aventures.
Ouais.
Et puis voilà.
Mais je fais un petit pont avec ce qu'on se disait tout à l'heure, parce que là t'as parlé effectivement de il faut faire beaucoup de sport pour se préparer et pour pouvoir anticiper pouvoir encore plus s'amuser et créer et tu disais tout à l'heure que tu faisais des gros blocs de foncier, qu'il y avait des moments où tu faisais beaucoup de préparation physique de manière un peu plus concrète. Là, enfin, je fais juste une petite digression. C'est comment est-ce que tu te prépares physiquement? Ça va être beaucoup de course à pied? Est-ce que tu vas faire du renforcement musculaire, beaucoup de gainage? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans ta préparation physique?
Ouais, ça varie. Ça varie vraiment assez fréquemment pour pas. Je m'ennuie très vite dans mes entraînements s'ils sont trop réguliers. Donc ça varie. Mais la base c'est la course à pied. Ouais, course à pied. Quand je parle de course à pied, c'est pas vraiment du trail parce que autour de chez moi, je pourrais prendre la voiture pour aller faire du trail à une demi-heure de la maison, mais maintenant depuis 2 ans maintenant, j'évite de prendre la voiture pour moins polluer et pour aller m'entraîner. Donc je pars de chez moi et là c'est plutôt des collines. Donc ça ressemble plus à du cross que du trail, tu vois. J'arrive quand même parfois dans les grosses journées à faire 1000 mètres de dénivelé, mais voilà. C'est vraiment
c'est déjà pas mal.
C'est mieux qu'en banlieue parisienne. C'est sûr que c'est on a un terrain de jeu un peu plus facile. Donc beaucoup de courses à pied. Je fais un peu de gainage. Surtout là maintenant, plus ça va, plus je commence à faire du gainage parce que je vieillis et que tout mon corps là, il commence à bouger un peu dans tous les sens, et que il faut si je veux continuer à faire des conneries longtemps, il faut que je gaine un peu plus. Donc gainage, je fais un peu de traction pour les doigts, etc., pour tout ce qui est escalade quand j'ai des projets d'escalade. Et puis voilà quoi, hein, ça reste assez basique quoi.
C'est déjà bien, tu vois. En vrai, la meilleure préparation physique dans un sport ou dans une discipline, c'est de pratiquer au plus sa discipline. Si tu fais en plus de la préparation physique, c'est une cerise sur le gâteau, tu vois. C'est un luxe comment dire. C'est vraiment être consciencieux c'est top. Mais OK, mais c'est du coup je vois quand même que tu as un bon petit programme. J'étais un peu curieux de savoir, et tu as mentionné peut-être l'âge et le corps qui change. Comment est-ce que tu te vois toi évoluer? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que tu quelle pratique, quel projet tu te vois avoir fait? Est-ce que tu penses que tu seras toujours aussi performant entre guillemets? Est-ce que tu pourras dire, enfin faire autant de conneries comme tu le dis?
j'en sais rien. Je vais dire une de mes phrases type, mais on verra bien. Moi je me laisse un peu aller vers qu'est-ce qui peut me motiver, qu'est-ce qui peut encore comment est-ce que je peux continuer à raconter des histoires, et puis surtout la manière de voir la montagne que moi j'aime bien, comment est-ce que je peux encore raconter ça avec mon corps. Quand j'y arriverai plus avec mon corps, bah j'ai déjà écrit un bouquin, peut-être que je reprendrai encore la plume pour écrire d'autres bouquins. Peut-être, tu vois, j'ai peut-être une idée de proposer peut-être des pourquoi pas créer un genre de centre de formation, même si ce serait pas un centre de formation, mais voilà, faire de la formation avec des jeunes qui pourraient être intéressés par ce type de projet, quoi, de faire de la montagne comme moi je peux la partager. Pourquoi pas, tu vois, j'ai plein d'idées, et puis on parle souvent aussi avec ma chérie de pourquoi pas tenir un refuge un jour, voilà. Donc je sais pas du tout, je pense que je verrai bien. Ce qui est sûr, c'est que il y a des projets que je pourrais plus faire dans 10 ans que je fais maintenant, tu vois, la farandole des écrins dans 10 ans, si j'ai encore l'idée de la faire en 5 jours, je pense qu'il va falloir que je prenne des anabolisants, et ça c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc du tout. Non, peut-être que j'aurai encore des projets, mais ce seront pas les mêmes, ça c'est sûr. Ouais. Ce sera peut-être des projets plus techniques, peut-être moins physiques, plus techniques. Si je continue à être motivé, ouais, on verra.
Et il y a d'autres, peut-être d'autres disciplines ou d'autres, tu vois, dans la montagne, comme tu le disais, on peut y faire tellement de choses. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te sont inconnues et que tu as envie de découvrir?
Moi, j'aimerais bien revenir à la base. C'est refaire un peu des projets plus typés escalade. Ouais. Et puis en plus, ce qui est pas mal, c'est que l'escalade, ça vieillit bien avec le temps. On peut grimper dans des niveaux raisonnablement intéressants jusqu'à assez tard. Donc ça, c'est chouette. C'est contrairement au trail on peut courir jusqu'à 50 ans, 60 ans sans problème, hein, mais peut-être moins longtemps, ou enfin voilà, c'est volume, peut-être, ouais. C'est peut-être plus compliqué au niveau du volume. Je verrai, c'est peut-être un petit truc, mais ça fait 10 ans que je dis à tout le monde, je vais me remettre à l'escalade, et j'arrive jamais à prendre le temps de me remettre à l'escalade. Donc voilà, on verra bien si j'y arrive.
Bon, j'en doute pas que. Puis peut-être, tu vois, en le proposant, là, il y a peut-être un auditeur qui va nous entendre et qui va se dire, ah bah tiens, je vais aller proposer un petit projet à Paul et qui sait, hein, on sait jamais. Moi, je sais qu'une fois, j'avais proposé à des auditeurs de faire un raid et plusieurs avaient contacté pour qu'on le fasse. Bon, manque de bol, il y avait eu le confinement juste après, donc ça avait un peu tué dans l'œuf les projets. Mais là, faudrait que je me remette à regarder un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche. Pourquoi pas, il y a peut-être des petits trucs à faire. Donc voilà, on peut faire un appel pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. Très 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 chouette. J'arrive un petit peu à mes questions de la fin que je pose un petit peu à tout le monde, et une question que j'aime beaucoup, m'inspirer des ressources, tu vois, des invités que je peux avoir, et savoir, tu vois, est-ce qu'il y a des livres, des films, je sais pas, des podcasts, des documentaires qui t'ont inspiré. D'ailleurs, moi, j'ai commandé ton livre, j'attends de le recevoir, donc j'espère que je pourrai le déguster en temps et en heure. Mais ouais, quelles sont tes sources d'inspiration?
Alors moi, elles sont c'est multiple, c'est vraiment très 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 ça va très loin. Mes sources d'inspiration, maintenant je vais essayer de t'en donner quand même quelques-unes, parce que ça sert à rien de dire ça sinon. Non, moi je sais qu'à la base, ce qui m'inspire, c'est étrangement, c'est pas du tout c'est peu des montagnards qui m'inspirent, c'est plus des artistes extérieurs. Et du coup, moi, je sais que j'ai été assez marqué par Morrison, Jim Morrison, quand j'étais jeune ado, quoi. C'est quelqu'un. J'étais dans ma phase Jim Morrison, Richard Bohringer, des écrivains, chanteurs, qui vont essayer de chercher des choses. Voilà, ça j'aime bien. Et du coup, pour te donner un exemple de bouquin qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai relu au moins deux fois, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Okay. Donc c'est vraiment un écrivain poète suisse qui décrit sa traversée entre Genève et je sais plus l'Asie centrale en deux chevaux, et mais il écrit d'une telle façon que c'est magnifique à lire, quoi. Donc L'usage du monde, ça m'a vraiment marqué, et voilà. Donc mon inspiration pour la montagne vient beaucoup de musique. Là en ce moment je suis sur José Gonzalez. Okay. Voilà, c'est quelqu'un qui me fait partir
le guitariste là, le guitariste et chanteur,
ouais,
c'est ça.
Ouais,
ah, j'adore,
ouais.
J'adore ce qu'il fait, c'est incroyable. Ouais.
C'est il me fait vraiment pas planer, au contraire, il me fait aller vers tiens, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir avec sa musique, et puis je tombe systématiquement sur des images de montagne, des trucs donc ça vient plutôt des artistes. Après, j'ai des figures de montagne qui m'ont marqué. Hein. Je parle souvent de Patrick Béraud, et même de Patrick Edlinger. Enfin, c'était surtout ceux qui m'inspirent en montagne, ce sont des gens qui justement essayent de briser un peu les codes de la performance pour aller chercher plus du côté de l'esthétisme. Et de la manière, quoi. Et ça me plaît toujours. Alors, il y en a pas tant que ça, des montagnards. Bah, il y a Rébuffa aussi, qui était un peu dans ce sens-là. Mais il m'a moins inspiré que quelqu'un comme Patrick Béraud, qui lui faisait de la danse escalade, qui s'était positionné contre la compétition d'escalade à l'époque où la compétition d'escalade était naissante, etc. Et puis j'ai eu la chance de partager quelques moments avec lui pendant ma formation de guide. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment voilà, ça reste ma référence montagne, ça reste ce Patrick Béraud. Ouais. Ouais. Après, j'ai mon copain Didier Angelot, qui était pote avec Patrick Béraud aussi, qui m'inspire beaucoup, et avec lequel je grimpe, avec lequel j'ai monté des projets, et puis avec lequel on discute, et voilà, c'est on va dire qu'en Didier en ce moment c'est mon pilier, mon pote, voilà, c'est celui avec lequel je voilà, on est bien en phase, qui voilà, c'est tout.
Bah c'est déjà beaucoup. Et peut-être petite question sur la relation que tu peux avoir avec Didier. Est-ce que quand tu prépares un projet on va dire solo entre guillemets, est-ce que tu vas lui confronter, essayer de le faire le challenger un peu, j'imagine. C'est important d'avoir selon toi un binôme avec qui justement on peut pas forcément se tirer vers le haut. Je pense que tirer vers le haut, c'est la métaphore qu'on peut faire le plus, mais en tout cas s'enrichir d'une relation où justement tu vois il y a du répondant, et puis et t'en sors grandi, quoi.
Oh bah, avec Didier pas du tout. Non, avec Didier notre relation elle est purement amicale, et si moi je lui parle de mes projets, lui il rigole à mes conneries, hein. C'est pour ça que j'appelle ça des conneries d'ailleurs. C'est parce qu'il me dit bah, t'es con. et puis voilà, il y a pas de rivalité. Ou bien il me dit c'est génial parce que ça lui fait monter les étoiles dans les yeux. Après, si pour d'autres projets, tu vois, comme ce que j'ai fait cet hiver avec Vivian ou avec Xavier, les deux avec qui je suis parti cet hiver, on est tout le temps dans du partage, on n'est jamais dans moi je sais que à chaque fois que j'ai appelé Vivian pour lui faire part d'une idée cet hiver, je pense que il n'y a pas une seule fois il m'a pas dit dément, j'y suis jamais allé. Et tu vois, c'était ça son truc, quoi. Ah, dément, ouais, je viens, j'y suis jamais allé, je connais pas. Et du coup, ça, c'est chouette quand t'as quelqu'un qui te répond comme ça, quoi. C'est pas, moi, je crois pas, je sais qu'il y a de la rivalité en montagne, entre des personnes qui font des projets et d'autres, etc. Je suis pas naïf. Mais en tout cas, moi, je me sens complètement pas concerné par ça, quoi. Moi, je suis pas du tout là-dedans. D'ailleurs, je serais là-dedans, je serais pas en train de préparer un truc de 5 jours où c'est la plupart du temps de la balade sur sentier dans les écrins, quoi. Je perdrais pas mon temps à faire ça. Je serais plutôt en train d'essayer de faire la face nord des Grandes Jorasses en le moins de temps possible, quoi. Et c'est voilà, je préfère aller faire le tour des copains en refuge plutôt que d'essayer de faire un meilleur temps sur la face nord des Grandes Jorasses. Ça c'est posé, c'est clair.
Ok, voilà. je vois bien le contexte. L'avant-dernière question que je pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il aurait eu besoin de savoir le Paul de 20 ans. Si tu pouvais lui glisser un petit mot à la version toi-même, enfin à ta version beaucoup plus jeune, on va dire 25 ans en arrière, qu'est-ce que le Paul de l'époque il aurait eu besoin de savoir?
Franchement, je me sens c'est délicat de répondre à ça parce que je me sens tellement bien dans ma vie actuelle que j'ai l'impression d'avoir eu la chance d'avoir de m'être laissé aller à faire ce qu'il fallait, quoi. Enfin, ce qu'il fallait. J'ai eu des moments super durs à partir de mes 20 ans, vraiment très durs. Mais ça m'a pas empêché. Au contraire, je pense que je les aurais pas eu, j'en serais pas là. Et du coup, je pense que le meilleur conseil que j'aurais à donner au Paul Bonhomme qui avait 20 ans, ce serait un grand silence. Ce serait un grand silence. Et puis surtout, vis ce que tu as à vivre. Essaye de prendre tout le bonheur du monde, quoi. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose. Il faut toujours y croire, quoi. Faut toujours être. Je me définis facilement comme quelqu'un de d'utopiste, idéaliste, naïf, avec une naïveté, peut-être un peu forcée, dans le sens où il faut rester naïf pour apprécier pour aller de l'avant, en fait. Si on croit pas que les gens, si on voit tout en noir, et ben on n'arrivera pas bien loin, quoi. Si on croit pas un minimum en l'humanité et en nos capacités, si on n'a pas un minimum confiance dans l'autre, etc., ou en soi-même, ben on n'arrive pas à avancer. Donc il faut être légèrement un peu naïf aussi pour ça, parce que sinon on n'y arrive pas. Donc voilà. Et puis il y a un conseil que j'ai vu dans tes questions. Tu m'as pas encore posé la question, mais il y a un conseil qui me reste et qui est vraiment le leitmotiv de ma vie depuis tout jeune, et c'est un conseil de ma maman. Si elle écoute le podcast, elle sera toute fière, mais restez simple simple. Et c'est marrant parce qu'il y a des musiques qui vont, je me souviens d'une musique que mon frangin écoutait, c'était Lynyrd Skynyrd, Be a Simple Man, et c'est un super morceau de Lynyrd Skynyrd, et voilà, rester simple, rester soi-même, rester simple, ça permet vraiment d'aller loin, quoi. Ça permet vraiment d'aller loin. Ça veut pas dire qu'il faut pas se prendre la tête, hein. Rester simple, c'est beaucoup de prise de tête pour savoir rester simple. Au contraire, faut beaucoup se prendre la tête pour essayer de rester simple. Mais faut vraiment, je pense que c'est important, ça. Ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, quoi.
Ouais. Ok. Bah écoute, merci pour ces conseils et ces sources d'inspiration. Moi, ça me parle beaucoup. Effectivement, c'est très compliqué de rester simple. Effectivement, et c'est déjà difficile de trouver sa propre définition de la simplicité, tu vois. Et je pense que c'est la simplicité, c'est à la fois un mot universel, tu vois, qu'on comprend tous, et en même temps, on le vit tous peut-être très différemment, tu vois. Donc effectivement, rester simple, j'en sors grandi de ce petit conseil de la journée, tu vois, reste simple, parce que je pouvais avoir en plus moi-même en ce moment tendance à me prendre un peu trop la tête. Mais écoute, super, pour terminer les échanges, je pose toujours la dernière question, de savoir quel est le la prochaine le prochain aventurier, la prochaine aventurière, le prochain sportif que tu me recommandes d'aller questionner. Ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui t'a inspiré récemment, ou quelqu'un dont tu aimerais bien découvrir l'histoire, ou au contraire quelqu'un dont tu connais l'histoire et tu aimerais bien mettre un petit peu cette personne en lumière. Alors je te dis pas forcément de citer qu'une personne, mais tu peux citer plein de noms s'il y en a qui te viennent, et pour pas faire de jaloux.
Non, moi je vais rendre à César ce qui appartient, enfin pas à César d'ailleurs, mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent sur mes réseaux sociaux et je suis surpris de les voir là, et que j'apprécie par ailleurs. Je les connais peu, très peu, mais là je sais qu'il y a Johan Stuck, donc c'est un trailer, Johan Stuck qui me suit, qui m'envoie des petits cœurs. Il y a Arnaud Petit qui ça fait longtemps qu'on échange parfois de temps en temps quelques messages aussi. Et oui. Voilà, il y a Martin Kern, il y a voilà des gens qu'on connaît moins, et voilà, c'est voilà, je suis voilà, c'est marrant les réseaux sociaux. Je trouve que il y a pas mal de non mais ouais, parce que voilà, on parle souvent de ce qui va pas avec les réseaux sociaux, mais c'est quand même un formidable outil de partage, quoi. Si on le prend vraiment comme un outil de partage et pas que de comment dire d'un outil de propagande, et ben c'est super les réseaux sociaux. Faut juste partager, faut pas forcément essayer d'avoir tort ou raison. Faut juste essayer de partager un peu sa vision du monde, et puis essayer de partager ce qu'on peut vivre, quoi. Ça c'est chouette. Ouais. Et voilà.
Bah écoute, très très sympa, merci pour les recommandations. J'ai déjà interviewé Johan, qui est d'ailleurs super sympa, et je sais qu'il écoute de temps en temps le podcast, donc s'il nous écoute, on l'embrasse très fort. Et effectivement, non, c'est moi je le vois, tu vois, tu parles des réseaux sociaux, on en parle souvent sur le podcast parce que c'est un outil de travail, tu vois, pour les athlètes et les aventuriers, qui est non négligeable, tu vois, aujourd'hui, qui a permis de faire plein de choses, et aujourd'hui qui permet à plein de personnes de pouvoir vivre un peu plus de leur passion, ou en tout cas de mettre en lumière leur passion et de pouvoir la partager aux autres de manière très simple. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages, et c'est vrai que tu fais bien de le mentionner. On cite souvent les mauvais côtés, mais il y a aussi de bons côtés, et c'est à chacun de faire aussi sa part des choses, et à chacun d'en faire bon usage, hein. Tu vois, c'est comme on dit le pistolet, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais d'un pistolet? Est-ce que c'est pour protéger et peut-être montrer de la réassurance, ou pour aller défendre des gens qui valent la peine d'être défendus, ou est-ce que c'est au contraire pour aller faire du mal? Tu vois, c'est toujours peut-être que la métaphore avec le pistolet n'est pas bonne, mais voilà, tout ça pour dire, on fait je
pense que j'ai bien compris ce que tu voulais dire.
Voilà, tout ça pour dire que non, je voulais juste que dire ça, c'est qu'un outil, et ça dépend surtout de ce qu'on fait avec, quoi. C'est ça qui est important. Merci infiniment, Paul. Franchement, je me suis régalé de cet échange. Tu m'as fait voyager avec toi. Je m'imaginais, tu vois, en train de descendre à skier avec toi, ou avec le piolet dans le dos, et d'essayer de gravir quelques crêtes. C'était vraiment super chouette. Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir partagé autant de choses. C'était vraiment super cool.
Merci à toi, Bart. Merci.
Salut, à bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.